Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
L'accueil par la toux de Michel Braconnier et bienvenue à Radio Campus, à l'émission La Conspiration des Planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus sur 92.1 FM, comme chaque mercredi en direct 19h-19h30 et en rediffusion dès le jeudi dès 13h30, la petite demi-heure de l'émission critique des arts de la scène de Bruxelles. Mais une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on fait une spéciale vrac parce que la semaine prochaine, un curieux festival se déroule dans XL et ses environs. Et pour nous en parler, j'ai à mes côtés Michel Braconnier, directrice de L'Aile. Bonsoir, bonjour Michel.
Bonsoir.
Et les artistes Antoine Lobin et Pamina de Coulon. Bonjour, bonsoir les artistes.
Bonsoir.
Évidemment Nicolas à la technique. Alors,
évidemment, bonsoir.
Bonsoir Nicolas. Alors le théâtre de L'Aile en 2008 s'est lancé dans un drôle de projet. D'abord il a fermé ses portes pour travailler en coulisses et pour créer des résidences d'artistes et une biennale vrac et ce moment de visibilité comme Michel Braconnier le dit. De ces artistes, de ces objets. Alors, le projet audacieux que je vous ai appelé Michel pour en discuter, c'est d'avoir fermé votre théâtre qui fonctionnait. Ce n'est pas un théâtre moribond, c'est un théâtre qui fonctionnait et vous êtes foutu en coulisses.
Oui, c'était vraiment un choix longuement et mûrement pensé. Après 18 années d'une bonne programmation, je trouvais qu'il y avait vraiment un vrai souci par rapport aux artistes. C'est-à-dire, je trouve qu'on leur donne pas suffisamment de temps pour se poser des bonnes questions, pour réfléchir, pour mettre en jachère des choses. Et la seule solution, c'était de dire il faut absolument trouver un espace qui leur soit dévolu, où ils sont payés pour chercher et ne pas produire, avec une formule fort simple, faites-en moins, faites-en mieux.
Mmh. Mais c'est-à-dire pas de produire de spectacle, parce que ça c'est quand même, pour un artiste, ça doit le castrer ou pas, Antoine ou Pamina?
Ah non, pas du tout, c'est un grand luxe. Hein. Je m'entends pas, je sais pas.
mais ça marche très bien, voilà.
Okay, tant mieux. Non, c'est un grand luxe de pas avoir l'obligation du résultat quand on se lance dans la bataille. C'est je pense, le seul ou un des seuls critères que Michel fixe aux artistes interlocuteurs, c'est de ne pas arriver avec un projet de spectacle clé sur porte. Il faut venir avec un enjeu de recherche. L'avoir à partir du moment où ça c'est clair, peut-être qu'un spectacle naîtra, mais peut-être pas. Et dans un cas comme dans l'autre, l'expérience est intéressante.
C'est ça, hein, Michel. Tu soulignes dans le projet que peut-être ces spectacles ne deviendront pas obligatoirement des spectacles finis.
Exactement. Je crois que c'est la base de la démarche et que les artistes qui postulent pour venir à L'Aile, ce n'est pas leur obsession première d'avoir un objet fini. Alors je sais que c'est vraiment très contradictoire, hein, parce que quelque part, je veux dire, un artiste, s'il fait des études, c'est à un moment donné pour être vu, pour être jugé par ses pairs, pour échanger des choses. Et je pense qu'il y a à un moment donné des endroits, des espaces où l'artiste doit pouvoir se retrouver avec lui-même pour oser tester des nouvelles choses sans être jugé. Parce que trop vite, quand on est sur un plateau, il y a un jugement qui est donné.
Est-ce que ça ne fait pas partie normalement des répétitions où ils font de la recherche?
Non, parce que pour moi, quand on dit répétition, ça veut dire qu'il y a il y a un enjeu de financement, il y a un enjeu de productivité. Il y a un metteur en scène, un chorégraphe qui a décidé de faire un objet. Pour cet objet, il engage des personnes. Et ces gens sont limités dans le temps. Et donc, on leur donne un temps défini, mettons 3 mois, avec un objet fini à la clé. Et ça, pour moi, ça bloque automatiquement l'univers créatif de l'artiste.
C'est quasi un discours économique de la culture, finalement. La productivité à tout craint, vous n'en voulez pas, finalement.
Alors, je ne pense pas que le projet de L'Aile soit la panacée. Je pense que c'est une niche qui peut être intéressante pour certains créateurs. Il n'est pas sain de mettre tout le monde dans le même panier. Et je pense que tout artiste, à un moment dans sa vie, doit ou devrait avoir ce qu'on a, mettons à l'université, une année sabbatique. C'est-à-dire un temps où il est payé pour se poser d'autres questions.
Où le temps, c'est à l'époque où le temps, c'est de l'argent.
Absolument. Voilà. Et ça, on ne remerciera jamais assez la communauté française qui a quand même eu l'audace d'accepter, dans une période qui est particulièrement critique et difficile, que cette recherche nécessitait un financement. Parce que c'est facile de dire aussi on cherche, mais je crois que tout travail mérite salaire et que c'est pas parce qu'on est en recherche que c'est dénigrable ou dénigré et qu'il n'y a pas un financement qui est absolument nécessaire à cette chose. Autant pour payer les gens que pour donner des outils pour pouvoir accéder à ces recherches. Parce que vous seriez étonnés des moyens que l'on peut donc donner aux artistes. Quand on comptabilise, on est plus que dans des coproductions traditionnelles. Mais c'est surtout parce qu'ils ont des moyens de base pour émettre cette recherche qu'elle peut bouger.
Mais Michel, les moyens, parce que c'est tu le dis, hein, c'est 33 euros par journée de répétition, c'est quasi symbolique, non?
Alors, c'est pas du tout symbolique. Il faut remonter dans le temps. En 2008, quand avec la communauté française, on s'est posé la question, il y a eu une demande assez fondamentale, je trouvais, c'était de dire il faut distinguer le cachet qui est lié à un objet fini, à une indemnité. Comment trouver une solution juridiquement acceptable? Et il faut remonter dans le temps. Et en 2008, il y avait cette idée de financer le bénévolat. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de bénévoles à l'époque. Vous en savez tous comme moi dans les milieux associatifs et autres. Et il y a une petite loi qui était passée en disant que dorénavant, à partir de maintenant, il y aurait une indemnité de bénévolat. Et donc, on s'est engouffré dans le système ou dans la brèche, mettons plutôt. Et de cette brèche, on s'est dit, ben voilà, la manière, pour commencer ce mandat qui était de 5 ans, donc 2008-2012, projet pilote, de dire, eh bien, testons et indemnisons quotidiennement le travail de ces artistes. Je répète souvent la même chose, mais je me dis, combien d'artistes ne travaillent quand même pas dans des conditions absolument médiocres, quitte même à faire des répétitions pour des objets finis pour lesquels ils ne sont pas payés. Donc, quand on m'a dit au départ, mais c'est un scandale, c'est du sous-paiement pour les artistes, je pense que c'était la première fois qu'on reconnaissait que chaque journée de travail pouvait avoir un minimum de reconnaissance financière.
Parce que dans le milieu, si nous on creuse bien, par exemple ils ont 3 mois de répétition et encore c'est énorme, mais certains font un travail en amont de lecture ou de travail de texte ou de recherche qui ne sont pas payés.
Absolument.
Et
absolument.
Quand les répétitions sont
payées. C'est ce que j'allais dire, absolument Nicolas. Quand les répétitions sont payées, franchement, il n'y a que les grosses maisons qui peuvent encore se le permettre. Je pourrais dire que 9 fois sur 10, la plupart des projets, et même les artistes qui sont dans des maisons reconnues, ne sont pas payés pour leurs répétitions. Je veux dire, techniquement et financièrement, on n'y est pas, ne rêvons pas.
Et quand tu as fermé donc le Théâtre de l'Aile qui fonctionnait bien pour en venir à des résidences d'artistes, est-ce qu'il y avait une demande de la part des artistes? Est-ce que tu l'as fait parce qu'il y avait une demande ou toi par une certaine frustration?
En toute modestie, je pense que j'ai toujours pensé l'Aile au service des artistes et pas à mon service à moi. Franchement, voilà, je peux faire d'autres choses dans mon existence, c'est pas le souci. Mais à chaque mandat, je trouve qu'il est important de se poser la question à savoir est-ce que l'institution pour laquelle vous recevez des financements qui sont quand même des deniers du public, est-ce qu'il est pertinent par rapport à l'état du monde et de la question? Et en 2007, franchement, il y avait un tel désarroi, je trouvais, de la part des artistes sur cette question de dire cette obligation de production épuise, que ça m'a permis de prendre du temps de discussion. Discussion qui s'est quand même menée pendant une année avec la plupart des directeurs de théâtre pour se dire que peut-on mettre en place, voilà. Et la communauté française a accepté le projet que j'ai déposé.
Nicolas, tu avais une question?
Ben non, c'est que maintenant, en fait, c'est ce projet qui se traduit maintenant dans ce festival Le Vrac, hein, dont on va parler, 3e édition. Et c'est pour montrer aussi que dans le programme, on ne lit pas spectacle, mais bien chantier. C'est pour montrer tout ce work in progress qui est présenté par Le Vrac.
Exactement. Alors ça, c'est peut-être aussi quelque chose de très, très, très particulier. Honnêtement, je ne pense pas qu'en Europe, il y ait un autre festival de ce genre qui ne montre que de la recherche. C'est-à-dire que c'est un festival qui, à 90%, présente, moi j'appelle ça un polaroid géant, c'est-à-dire c'est l'état de la recherche des artistes à un moment précis. Et donc, ça veut dire qu'on convie les publics à venir, pour moi en tout cas, au moment le plus plaisant du travail de la recherche des artistes, c'est partager un objet en train de se faire. Alors, c'est sûr que le public voit des choses tout à fait étranges, pour lesquelles nous, souvent, c'est le plus grand moment de bonheur qu'on possède. Et ces objets qu'ils vont voir, il n'en restera peut-être rien. Voilà, après, vous aurez l'occasion de discuter avec deux artistes ici présents.
Mais quels artistes?
Et quels artistes?
Donc, oui, mais Antoine... je veux dire aussi, quels artistes viennent à l'Aile?
Au niveau des candidatures?
Oui, c'est ça. C'est...
Alors ça, franchement, c'est extrêmement large. Il faut savoir que les candidatures se font sur dossier, majoritairement. On en reçoit à peu près 200 par an. Ça fait la 5e année maintenant. Et que c'est vraiment tout univers confondu. À part que nous, on a estimé quand même que nos compétences étaient majoritairement en théâtre et en danse contemporaine. On ne s'est pas senti très fort en art plastique et en musique et du coup, on ne s'est pas développé là-dedans.
Mais il y a, depuis 2008, donc il y a une trentaine de résidents. Tous ne seront pas au FRAC. Ils ont la liberté de présenter ce qu'ils veulent quand ils le sentent.
Alors, disons que c'est vraiment une discussion artiste et l'aile de se dire, est-ce que le vrac, au moment où vous le montrez, ne vous met pas en danger? Parce que c'est quand même des choses extrêmement fragiles. On rentre dans l'intimité la plus profonde d'un artiste. Il montre l'endroit le plus fragile de sa personne, puisqu'il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de costume. Donc, il n'y a rien qui les protège. Ils sont dans leur questionnement premier, donc extrêmement fragile.
Michel, je rêve ou bien c'est une démarche altruiste?
Je ne mettrai pas cet adjectif à cette activité. Je pense qu'elle relève. Je pense que le festival, en tout cas l'activité d'accompagnement aux artistes, relève vraiment d'une demande. Je pense qu'il y a vraiment, vraiment une demande conséquente par rapport à cela. Et je le vois en 50 ans. Quand on a commencé avec 2 lieux partenaires et on a quand même 25 lieux partenaires maintenant, dont 18 à l'étranger et pas des moindres. Ça veut dire qu'il y a une sensibilité très grande de la part des directeurs de structure pour cette ouverture à mieux être au service des jeunes créateurs.
Et vu que c'est la 3e édition, c'est que le public peut-être est aussi demandeur de voir ces artistes en cherche.
Mais je crois si
qu'on jure le sort.
Je crois que c'est aussi, ça correspond aussi à une certaine conception de ce que doit être la création artistique. Est-ce qu'il vaut mieux que tout le monde applique sans cesse les mêmes recettes, de la même manière et travaille de la même façon, ou est-ce que ça peut être intéressant qu'une petite partie des créateurs se gratte la tête pour faire avancer leur discipline?
Et de la même manière, est-ce que les publics ont envie de voir toujours la même chose?
C'est surtout le partage. On est curieux de voir comment un artiste travaille dans son chantier. Mais Antoine, connaissant un peu ton travail et un peu ta personne, tu aurais la même exigence si tu étais dans une création de production de spectacle.
Oui, mais je n'aurais pas les mêmes conditions de production. Je n'aurais pas cette possibilité. Comme l'a dit Michel tout à l'heure, le fait de savoir que dans 7 semaines ou dans 8 semaines, j'ai une obligation de résultat devant un public parce qu'il y a de l'argent qui a été engagé, parce que je suis responsable de l'entreprise, ne me met pas du tout dans le même état d'esprit que si je sais que j'ai 8 semaines pour défricher tous azimuts ma matière et le traitement de cette matière. L'état d'esprit est vraiment différent. Et ça ne veut pas dire qu'on ne se relève pas les manches et qu'on ne bosse pas, hein, évidemment, au contraire.
Mais je crois que Michel, tu es un peu quand même derrière tout ça, parce que tu vas constamment aller voir où il y a des rencontres ou des débats.
Elle drille.
Alors ça, j'aimerais autant que ça ne soit pas dans cette optique-là, mais sans rire. Mais par contre, oui, l'idée, c'est que c'est un partage, c'est un échange. Donc moi, ça ne m'intéresse pas d'ouvrir la porte, de dire à un artiste, vous avez 3 semaines, et puis de reprendre les clés à la sortie. Hein, ce n'est pas ça l'objectif. Oui. L'objectif, c'est vraiment de bien comprendre quel est le questionnement de l'artiste et de voir en quoi l'aile peut mettre les outils les plus en adéquation pour répondre à la question de l'artiste. Donc, il ne nous importe pas de donner un jugement. C'est pas qu'on aime ou qu'on n'aime pas. De quel droit, d'abord, on se permettrait ce genre de jugement? Je trouve ça vraiment mal placé. C'est plutôt de se dire, avec l'équipe de l'aile qui est précieuse, sans eux, je peux strictement rien faire, c'est être à l'écoute et de tenter de donner les meilleurs outils pour répondre aux questions. Et les outils sont multiples, hein, franchement.
Et on en avait discuté dernièrement. Il arrive où tu n'es pas en adéquation, où vous êtes peut-être trompé. Je crois qu'il y en a 3 qui sont partis. Tu as viré, entre guillemets, je ne sais pas exactement, dans les résidents. Parce qu'on a l'impression que c'est un monde tout beau, tout se passe bien. Mais je veux dire, le fait que l'artiste ait une question et toi que tu as une exigence face à ça, est-ce que ça se passe toujours bien? Parce que c'est un moment intime aussi de l'artiste, donc ça peut aussi heurter.
Alors ça se passe toujours bien, oui, parce que nous sommes des gens de bonne éducation. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, ce qui est quand même assez élémentaire. Mais
par exemple, l'ego de l'artiste.
Alors franchement, l'avantage, c'est que quand on travaille comme ça, en recherche, on est dans une bulle. C'est-à-dire qu'on est extrêmement protégé du monde. Et donc l'artiste va très très loin, je trouve, dans la façon dont il aborde ses questionnements. Donc il est dans une fragilité extrême. Et les débats sont toujours riches. Après, je n'ai pas de cas de figure concret d'un clash. Mais par contre, il y a un premier choix qui est douloureux. C'est-à-dire que l'artiste postule par dossier. Il est sur... voilà, on a fait une sélection hier, soyons très concrets, nous avons lu 50 dossiers. Sur 50 dossiers, nous avons pris 2 dossiers. Sur 2 dossiers, ils ont donc 3 semaines d'essais, ce qu'on appelle les essais. Et à la fin de ces 3 semaines d'essais, ils nous présentent leurs réflexions sur les 3 semaines. Voilà, il faut savoir que là, on n'en prend plus que 1. Et une fois qu'ils passent en chantier, pour l'instant, donc ça ne fait que on entame la cinquième année, je n'ai pas eu de personnes qui ont quitté les chantiers. Donc la difficulté, elle est plutôt au moment de la fin de l'essai, quand on annonce à l'artiste qu'éventuellement, on est désolé, mais qu'on n'est pas en mesure de répondre à ces questions, ou il nous semble qu'on ne sera pas en mesure, et donc on préfère s'arrêter là.
Michel, dernière question avant de passer vraiment la parole aux artistes. C'est la dernière année de ce FRAC pour ce mandat 2012. Est-ce que c'est une formule que tu voudrais reproduire ? Est-ce que tu es content, tu serais partante à rempiler ?
Alors, à la veille du vrac avec une grande fatigue, non. Ça, c'est plutôt... voilà, ce serait concret. Maintenant, je ne vends jamais la peau de l'ours avant d'en avoir tué. C'est une des meilleures choses que Armand Delcamp m'a appris quand j'ai commencé mon boulot. Il me disait, Michel, n'oubliez pas que chaque jour de gagné n'amène pas le suivant. Et du coup, je me dis, vivons d'abord ce troisième vrac. Que le public vienne en masse, qu'il nous rassure dans le fait qu'il est curieux, qu'il vienne découvrir ces nouveaux jeunes artistes de demain, qu'il vienne déguster avec nous ces nouvelles formes artistiques. Ouais. Et après.
En mars, tu fais une demande de prolongement.
Alors nous avons, lieu, hein. Oui, parce qu'en communauté française, ce sont des mandats de 5 ans. Et donc en mars, je suis obligée de remettre mes grands projets 2013-2018.
Ok. Est-ce qu'on est encore dans le lieu de résidence de l'aile telle qu'on le connaît ?
Oh, j'aimerais bien renouveler encore 5 ans comme ça, oui, parce que là, on a, disons, listé les choses les plus nécessaires, on voit les questions et je vois tout ce qu'on pourrait encore améliorer.
Dernière question, est-ce que quand on parle de spectacle, ça te dérange ou bien on doit dire objet scénique ?
Pour moi, un spectacle, c'est un objet qui est bouclé, c'est-à-dire qu'il invite un public avec un décor, des lumières, un objet qui permet une appréhension totale. Et pour moi, ce qu'on présente ici, ce ne sont pas des spectacles.
La conspiration. Eh bien, c'était le groupe Chouchou avec le morceau Jennifer Lopez, une illustration musicale de ce que viendra nous présenter Michael Alibert lors de cette troisième édition du Festival VRAC. Il sera là présent les 3 jours, 9, 10 et 11 février prochains, pour un sans titre. Je suppose qu'il trouvera le titre après l'aboutissement.
Justement, c'est aussi la provocation du VRAC de nous dire « vous n'aurez pas de titre cette fois-ci, pas de spectacle, pas de titre, juste un objet et une recherche artistique ». Et donc voilà, pour un peu résumer le VRAC, c'est du jeudi au dimanche, c'est quasi toute la journée. Alors moi, j'ai épluché le programme en long et en large, et j'ai l'impression qu'il faut vraiment plonger dans ce festival. Il y a un pass à 10 euros qui est 3 fois rien, c'est dans plusieurs lieux, et il faut vraiment au moins prendre le temps une journée de butiner dans divers lieux, parce que prendre un spectacle, j'ai l'impression, Michel, que ça fait plouf.
L'objectif, c'est vraiment une grande fête. Donc, c'est que les gens puissent circuler d'un projet à l'autre, parce que les variations vont de 3 minutes à 45 minutes, c'est le maximum.
Il y a 7 lieux.
Il y a 7 lieux différents. Et les parcours sont constitués de telle manière que les gens puissent courir dans un espace peu petit, puisque c'est la commune d'Ixelles, d'un lieu à l'autre, pour pouvoir au moins voir 3 à 4 spectacles dans la journée.
Et je signale que Radio Campus et l'émission est partenaire de ce festival parce qu'il soutient un peu cette alternative face au mainstream ou bien en tout cas face à ce qui se passe dans le milieu qu'on ne critique pas non plus, mais c'est une autre façon de souffler.
On critique les productions, évidemment.
Oui, mais c'est une autre façon de voir un peu la recherche artistique des arts de la scène. Et donc j'ai à mes côtés les deux fameux artistes fameux. Il y a Antoine Lobin, parce que quand même Antoine il a fait une pièce Les Pères qui a quand même impressionné.
Les langues
paternelles sur les pères. Donc apparemment dans le Roi Lear aussi, hein, on va pas dire que tu as un problème avec les pères, mais c'est tout comme. Donc toi, c'est matériaux pour un lear.
Ouais, pour le moment ça s'appelle De Rien, mais ça changera encore à mon avis.
Depuis le programme jusqu'au plateau, ouais, voilà, c'est voilà, ça le VRAC. Et alors toi, tu prends matériaux pour un lear, donc De Rien, et tu es dans un début de recherche.
Alors, on est à la fin de la première phase, on va dire. C'est un projet qui est à la fois un projet d'écriture et un projet d'écriture textuelle et un projet d'écriture scénique. Donc, on va vers quelque chose qui semble être deux parties distinctes. La première avec une partition textuelle pour 6 acteurs assez stricte, dont on arrive là au bout de la première version avec Thomas Depreyck, qui est mon collaborateur pour l'écriture. Et puis, il y a toute une deuxième partie dont on ne commence le travail malheureusement qu'en mai, donc ça, on ne verra pas encore au VRAC, qui est beaucoup plus de l'ordre de l'écriture de plateau, donc où les acteurs sont vraiment co-auteurs de ce qui se dit. Donc là, au VRAC, c'est une présentation de la première partie du projet dans son état actuel. Partition textuelle pour six acteurs.
Michel disait que cette année, elle avait demandé aux artistes de d'avoir ce premier contact avec le spectateur et lui dire, voilà, je suis dans ma recherche. Est-ce que tu as déjà préparé ça?
Alors, j'ai préparé ça. Il se trouve qu'on est programmé avec Karel Ménine le même soir, dans le même lieu, au Petit Varia, le 11 février. Et donc, on a pensé cette présentation en collaboration, Karel et moi. On connaît très mal le travail de l'autre. Et pourtant, ça fait 2, 3 ans qu'on se croise très régulièrement à l'aile. On a aussi, dans le cadre des partenariats que l'aile entretient avec d'autres festivals ou d'autres lieux, on s'est aussi retrouvés en même temps à la Maison de la Culture de Tournai il y a un an ou deux, dans les mêmes loges au même moment pour le même festival. Donc du coup, on a un peu sympathisé, on se connaît bien. Et comme on est coprogrammés ensemble, on a décidé de faire cette présentation de manière commune. Mais je ne vais pas trop dévoiler.
Mais est-ce qu'il y a ce côté où tu te mets plus en risque de présenter ton chantier? Ou est-ce que tu l'abordes comme tu avais fait les langues paternelles, voilà, je présente un objet. Est-ce qu'il y a un risque ou une intimité que tu dévoiles plus?
Oui et non. Disons qu'il est très clair que les propositions du VRAC sont des propositions non définitives. Donc le spectateur sait qu'il n'est pas devant un produit fini, donc je pense que son regard n'est pas le même que quand on dit « voilà, j'ai terminé, j'assume ». C'est pas ça, j'assume tout à fait l'état de la recherche actuelle, mais pour moi, ce n'est pas un projet fini que je montre le 11.
C'est marrant parce que quand les gens répètent leur spectacle, ils n'ont pas envie qu'on vienne les voir encore parce qu'ils ne sont pas prêts. Ici, c'est vraiment une mise à nu. Enfin, tu dis « voilà, moi, je suis dans mon état de recherche et je vous le montre, vous êtes là pour ça ». Michel disait « il y a une espèce de liberté qui se dégage ». Est-ce que toi, en tant que créateur, tu le sens?
Dans le moment de la présentation de l'étape de travail, pas particulièrement, non. Dans le travail avec les acteurs, oui, je ressens une liberté très grande. Je pense qu'on ose beaucoup plus que quand on est en création, dans la perspective d'une date de première. Donc, oui, la liberté, je la ressens complètement dans le travail. Au moment de présenter un public, non, ça c'est relativement la même chose qu'avec un produit fini. Oui.
Et alors, Michel dit tout le temps, elle engage sur des projets si les artistes ont une question. Est-ce qu'on peut avoir cette fameuse question que tu as eue pour entrer en résidence? Qu'est-ce que tu voulais faire avec le matériau lire?
Je voulais prolonger mes recherches précédentes. Donc
sur les pères.
J'ai la chance de travailler avec Michel depuis plusieurs années maintenant. Et ça fait longtemps que je tournais autour de cette pièce-là de Shakespeare parce qu'elle concentre vraiment pas mal de mes points d'intérêt, autant thématiques que structurels. Et ça me permettait à la fois d'aller un peu plus loin dans le traitement polyphonique qu'on a pu voir dans les langues paternelles. Ça me permettait d'aller un peu plus loin aussi dans le traitement de la marginalité, comme je le fais dans Dehors, donc un spectacle que je créerai dans 6 mois, mais qui a été développé pendant 3 ans à l'aile aussi. Voilà, donc en fait, c'était un peu radicaliser les options des recherches précédentes et le texte de Shakespeare me le permettait.
Et Pamina, toi, tu es aussi à côté de nous, on t'entend pas beaucoup, mais apparemment, on nous dit que tu es bavarde.
Et une fois, j'écoute.
Tu es chroniqueuse performeuse, c'est comme ça qu'on te présente pour le VRAC. Toi, tu viens avec un très beau titre, « Si j'apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie ». Est-ce que d'abord, c'est toujours ce titre?
Alors oui, c'est toujours ce titre. Moi, je commence par le titre, généralement, d'ailleurs. Donc,
Et alors, Antoine est en résidence depuis 2008, pas mal de temps. Toi, tu es en résidence depuis 2011 et tu nous viens de Genève.
Oui, enfin, plus ou moins, de Suisse, en tout cas.
Okay. Est-ce que tu es installée ici, à Bruxelles?
Oui, maintenant, depuis 5 mois.
Et alors, quel était le but de ta recherche, de cette fameuse question-là?
Ben justement, moi je crois que j'ai pas une question, j'ai 1000 questions. Et je pense que c'est pour ça que j'ai aussi suscité l'intérêt à l'aile.
T'as fait un dossier parce... avec que des questions?
Non, ben moi j'ai fait tout à l'envers. Et moi, l'obligation de production me fait pas peur du tout. C'était comme ça que je travaillais. Et à savoir qu'à un moment, pour moi, l'objet fini me fait pas peur du tout non plus. Je sens pas de pression parce que je travaille. Et à un moment, il y a la deadline, il y a le jour où je présente. Et voilà, je présente ce que j'ai. Mm-hmm. Et j'avais l'habitude de faire ça. Et d'une manière, comme je travaille toujours un peu sur des mêmes thèmes, qui sont un peu l'espoir et quels sont les choix que les gens font dans la vie et pourquoi, je faisais un peu des prototypes de ça. Et voilà, je m'arrêtais à cette espèce de phase d'essai, vraiment de prototype. Et après, j'avais plusieurs prototypes, mais je passais à autre chose parce que j'ai perpétuellement des choses qui m'intéressent et beaucoup de matériel qui traîne dans ma tête. Et du coup, ça me permettait de finir quelque chose et de prendre du nouveau matériel et de recommencer. Et là, moi, j'apprends à faire de la recherche, en fait. Et j'apprends à garder le même objet, mais à justement essayer de ne pas l'avoir figé, Et en même temps, plus je travaille dessus, plus j'ai de nouvelles envies et j'ai pas non plus envie de faire une pièce fleuve de 60 heures. Donc je dois constamment me censurer, me dire non, ça peut-être pour autre chose, ça arrête. Donc j'ai vraiment l'impression de prendre le contre-pied, mais du coup je profite aussi pleinement et je suis assez privilégiée de tout ce qu'offre l'aile et de tout ce qu'a dit aussi Antoine, mais je prends vraiment un peu à l'envers les choses.
Et ici ?
Et ici,
on me dit que c'est sur Sarah Palin.
C'est entre autres sur Sarah Palin.
Mais il y a le jeu dans le titre. Je crois que c'est ça aussi qui est important.
Voilà, oui, il y a le jeu. Donc, si j'apprends à pêcher, et non pas si on m'apprend à pêcher, je saurais manger toute ma vie. C'est justement ces questions un peu de construction de soi-même. Qu'est-ce qui fait que dans la vie, on fait plutôt ça ou plutôt ça? Et qu'est-ce qui fait que Sarah Palin a fait ses choix de vie? Et en comparant elle et en comparant une amie à moi qui a fait un voyage, et toutes ces choses-là alimentent mes réflexions un peu existentialistes.
Et Pamina, toi, tu fais tout toi-même. Écriture, jeu, mise en scène, enfin, tu fais tout le travail toi-même.
Voilà. Et avant l'aile, je travaillais vraiment plus ou moins toute seule, avec de temps en temps des copains qui m'aidaient pour des bidouilles informatiques ou comme ça. Et là, je suis un peu... Il y a l'ombre bienfaitrice de Antoine Defort, un autre résident de l'aile avec qui j'ai collaboré pour d'autres choses, qui me donne un peu son point de vue. Et ce qui est assez drôle parce qu'on s'entend très bien et on ne fait pas foncièrement le même travail du coup.
Mais Michel, tu as fait une maison collective. On a fait hippie là-bas.
Une auberge espagnole.
J'ai besoin d'un mentor. Michel, trouve-moi vite un architecte. J'ai besoin d'un plasticien. Donc c'est la maison à la recherche des hippies.
Voilà. Grâce à la maison des artistes, ils ont même l'endroit où ils peuvent maintenant même loger là.
Ainsi se termine malheureusement cette petite demi-heure sur cette drôle d'aventure. Ça reste quand même déboussolant pour le spectateur. Donc
on peut donner les détails pratiques, certainement.
Et rappelez bien que ce sont des objets scéniques en évolution. Donc on est dans la recherche d'un artiste. Il se présentera dans chaque spectacle. Ces objets ne deviendront peut-être pas des spectacles. Et c'est ce moment privilégié et particulier. Et donc franchement, moi je vous conseille de plonger, prendre un pass à 10 euros et aller butiner à votre aise. Et alors on le fait une semaine avant parce que le mercredi prochain, eux sont en général, comme on dit, en répétition, et les places, je pense, risquent de se vendre très vite. Chaque année, c'était quasi des sold-out. Hein,
absolument. Absolument. Alors venez, venez, venez.
Troisième édition du VRAC Festival pluridisciplinaire du 9 au 12 février dans 7 endroits dans la commune d'Ixelles. Un pass à 10 euros, ça on l'a déjà dit, et tous les rendez-vous sur www.llasbl.be.
Michel ne fait jamais dans la facilité.
Alors
à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Et pour vous donner envie, n'oubliez pas que le podcast de cette émission se trouve sur le site demandezleprogramme.be, également dans le centre de ressources de la Bellonne. Très belle planche à vous et des planches curieuses.